En fait, j'avais une amie commis qui se trouvait à Glotovo et qui m'a envoyé un certain nombre de livres. Et comme à ce moment-là, on suivait un séminaire de d'Udmurt, je suivais le séminaire de d'Udmurt de M. Moreau, et bien voilà, je me suis mis au commis.
Bien, j'ai vu que l'ambassadeur a mis un petit œil là, mais bon. Personne n'entre. Bien, eh bien, parlez-nous de Kouratov, parce que c'est passionnant et que nous serons ravis de découvrir Kouratov. Je vais vous demander de parler assez fort pour que Kert, qui traduit à Pirette et Yannicka et Hedwig, qui est ici, puisse bien entendre.
Je vais peut-être traduire phrase par, non pas phrase par phrase, mais petits éléments par
mais
petits éléments.
Elles font la traduction simultanée.
Ah bon, d'accord.
Mais comme ils n'ont pas de casque, ça veut dire que leur voix, si vous parlez trop bas, leur voix couvre la vôtre,
d'accord.
Et
d'accord.
C'est très difficile.
D'accord.
Donc parlez un petit peu fort.
Voilà.
Je vais m'asseoir là.
Je remercie bien sûr l'ambassade d'Estonie de nous avoir accueillis. Je remercie Eva Toulouse et Sébastien Cagnoli d'avoir organisé ces journées. Et je les remercie particulièrement d'avoir choisi le 19 novembre. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Puisque le 19 novembre, c'est là qu'on a c'est ce jour où en 1940, on a célébré le centenaire de la naissance de Ivan Kouratov. Alors je ne sais pas si c'était volontaire.
Ça n'a pas été volontaire, mais le hasard fait bien les choses.
Voilà. 19 novembre 1940, en fait, il y avait un petit retard, puisque Ivan Kouratov est né en 1839. Ivan Kouratov est considéré comme le premier poète commis. On pourrait presque dire le fondateur de la langue littéraire commis. Avant lui, il y avait eu tout de même quelques poètes qui écrivaient en commis, quelques écrivains, en particulier Klotchkov, qui est né en 1813, qui était un fils de sacristain, et qui a écrit quelques poèmes en commis, dont il est resté un poème. Nous n'avons gardé qu'un seul poème de ce poète. Et puis, il y avait le frère de Ivan Kouratov, qui s'appelait Vassili Kouratov, qui est de 1820, lui, qui est né en 1820, et qui était également un poète, un écrivain, un linguiste, un traducteur. Et c'est probablement d'ailleurs grâce à lui que Ivan Kouratov s'est intéressé à sa langue maternelle et a pu s'y dévouer toute sa vie. Il y avait encore, avant la naissance d'Ivan Kouratov, il y avait encore Georgi Lutkin, qui était linguiste, critique et poète, qui s'est intéressé au folklore, et en particulier, il a fait l'école des langues orientales à l'université de Saint-Pétersbourg, et c'est lui qui a prononcé ces mots qui ont évidemment atteint le cœur des poètes commis du XIXe siècle, Tirmas Uzni Komi Yuzi, c'est-à-dire il suffit de dormir, ou plutôt c'est assez d'avoir dormi, peuple commis. Et en 1837, à Oust-Sisolsk, qui va devenir plus tard la capitale Syktyvkar, est ouverte la première bibliothèque publique. Alors il faut dire que c'est une époque particulièrement favorable pour la poésie nationale commis, puisque c'est l'époque de la renaissance ou de la naissance des langues littéraires nationales chez des peuples qui n'en avaient pas ou qui ne l'avaient pas encore découverte. Et cela, on le doit en particulier à un écrivain allemand bien connu du XVIIIe siècle, qui est Gottfried von Herder, qui est né en 1744 et qui avait publié dans ses Volkslieder déjà un certain nombre de poèmes de différentes nations. Il y avait bien entendu des poèmes populaires, hein, des chansons. Il y avait bien entendu des poèmes allemands, anglais et français. Mais il y avait aussi des poèmes estoniens. Et c'est peut-être grâce à Herder que la poésie estonienne a pu aussi pénétrer dans des milieux qui ne la connaissaient pas. C'est l'époque de Lönnroth, qui, vous savez, est l'auteur du Kalevala, hein, de 1836 à 1849. C'est l'époque de Creutzwald, et alors là, vous le connaissez bien entendu, qui a composé le Kalevi Poek en 1857 et 1861, de 1857 à 1861. Donc, Ivan Kouratov, lorsqu'il s'est intéressé à sa langue maternelle pour en faire une langue littéraire, n'était pas, évidemment, un cas isolé. Il faut aussi signaler que un Russe, qui s'appelait Nikolai Nadiejdin, qui était né en 1804, avait été exilé pour des raisons politiques en pays commis, en particulier à Oust-Isolsk. Et c'est là qu'il a découvert la poésie nationale des commis. Et d'ailleurs, il a publié un livre qui s'appelle « La poésie nationale des Iriennes » en 1839, c'est-à-dire l'année de la naissance de Ivan Kouratov. Alors Kouratov est né à Kebra, qui est un village non loin de la capitale, de Oust-Isolsk. Il est né le 12 juillet 1839. Et donc cette capitale est devenue Syktyvkar. Et en 1940, lorsqu'on a célébré officiellement le centenaire de Kouratov, on a changé le nom de Kebra en Kouratovo. C'est-à-dire que maintenant, il y a donc une petite ville. Je ne sais pas si vous y avez été. Non, qui n'est pas loin de Syktyvkar, et qui s'appelle Kouratovo. C'était le 9e enfant de la famille, le dernier. Son père était diacre, son grand-père était prêtre. Il a eu 3 frères qui étaient prêtres, donc c'est d'une famille extrêmement religieuse. Il n'a pratiquement pas connu son père, puisque son père est mort quand il avait 6 ans. Et sa mère vivra jusqu'en 1874, c'est-à-dire l'année avant la mort qui précède l'année de la mort de Ivan Kouratov. Donc Ivan Kouratov, 1839-1875, vous voyez qu'il a eu une vie assez courte. Il fait naturellement, étant donné sa famille, des études pour être prêtre. Il obtient une bourse d'État et en 1850, il se rend avec sa mère à pied dans la ville de Yarensky, pour suivre le petit séminaire, 400 km de son village natal. Ensuite, il suit un enseignement qui était naturellement un enseignement en russe, et il commence tout de même, dès sa jeunesse, très tôt, à écrire des poèmes en commis. Et en commis, d'après ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu les textes, j'ai jamais eu les textes sous les yeux. D'après ce que j'ai lu, il a écrit ses poèmes en commis, mais dans l'écriture ancienne des commis, dans cet alphabet qu'avait donné aux commis l'évangélisateur du peuple commis, qui était Saint-Étienne de Perm. Donc, dans beaucoup de ses compositions, dès l'âge de 14-15 ans, 16 ans, il va écrire soit sous son propre nom, soit sous un pseudonyme qui est assez intéressant parce que ça marque peut-être un trait de son caractère, qui est le pseudonyme de Gougov. Alors Goug en commis, ça veut dire qui va à l'envers. Hein, c'est celui qui va à l'envers. Bon. Et il prend ce pseudonyme dès 1856. Il termine le petit séminaire et ensuite se rend à Vologda, où il apprend le latin, le grec, l'allemand et le français. Surtout d'ailleurs, il pratique le latin, le grec et l'allemand, et ça lui permettra d'ailleurs de faire des traductions. Il va traduire, il aura une très grande affection pour Goethe, pour Lessing, pour Herder. Il va donner beaucoup de traductions de ses poètes. Le français, semble-t-il, il a lu Victor Hugo. Il a une affection particulière, mais qui n'est pas tellement étonnante. Ça nous étonne, nous, un peu français, parce qu'on ne considère pas que c'est un très grand poète. Mais semble-t-il, à l'époque, même en France, on considérait que c'était un des plus grands poètes, Béranger. Alors, Béranger, pour des raisons d'ailleurs qui étaient des raisons peut-être poétiques, mais peut-être aussi politiques. Il est autorisé en 60, au printemps 60, à se présenter, parce que c'était un élève excellent, semble-t-il, on a les rapports de ses maîtres. Il est autorisé à se présenter à l'examen d'entrée de l'Académie spirituelle de Moscou, mais il échoue à cet examen, et il va passer quelque temps à Moscou, pour revenir au printemps 1861 dans son pays natal, c'est-à-dire à Kevra et puis à Oustisolsk, où il obtient un poste à l'école paroissiale. À l'époque, dans cette ville, il y a trois écoles. Il y a l'école du bailliage, il y a l'école de la paroisse et il y a une école de filles. Et c'est une grande année pour lui de composition, de vers, qui s'intéresse essentiellement au destin de son pays, à la langue de son pays, à son histoire. Et il tient aussi des carnets de notes sur la littérature, la philologie, l'histoire, la philosophie, l'économie, la géographie et le folklore. Et il commence à rédiger un dictionnaire et une grammaire. Il faut dire que l'œuvre de Kouratov, qui est une œuvre tout de même assez abondante, à la fois en prose, mais surtout en poésie, c'est une œuvre qui sera pratiquement inconnue de son temps, même chez lui, puisque 5 de ses poèmes seulement seront publiés de son vivant. Dans un journal, 5 poèmes parmi les plus connus, bien sûr, mais les autres seront publiés, comme on l'a dit ce matin, beaucoup plus tard. Il faudra attendre les années, le début du XXe siècle, pour que on puisse avoir lecture, pouvoir lire les poèmes de Kouratov. Il est resté célibataire toute sa vie, néanmoins, il avait une amie à laquelle il a dédié quelques poèmes, qui s'appelait Alexandra Popova, et qui était fille, elle aussi, d'un prêtre. Et c'est là d'ailleurs que, à Oustisolsk, Kouratov vivra. Il va habiter donc dans cette ville pendant 7 ans. Je vous lis un petit poème. Alors, j'ai fait polycopier des poèmes en version estonienne et commis. Alors, est-ce que vous les avez ? Non, mais c'est pas celui-là dont je vais parler, parce que j'avais donné un lot à la jeune fille qui travaille. Est-ce que vous avez les textes ? Comment ? Ben, il y avait aussi des textes. Non, mais ça, c'est le. Oui, mais c'est la seule. Il y avait d'autres textes. Il faudrait les faire circuler peut-être un peu.
On peut faire circuler, c'est
ça. Il y a aussi des poèmes, il y a la version commis et la version estonienne. Bon. Je vous lis un petit poème qu'il dédie à cette amie Sandra. Mon visage de soleil, alors là j'ai traduit littéralement, c'était Shoniban, qui veut dire littéralement la joue de soleil. Mon visage de soleil, ma bonne étoile, belle et tendre fille, reçoit mes éloges, danse comme un garçon, gamine, rit, chante. Clair soleil, réjouis, réchauffe tout l'univers, jolie fille, rends-nous la vie légère. Et puis, un peu plus tard, aujourd'hui sur la terre, c'est la lumière et le soleil, aujourd'hui fête chaque jour, aujourd'hui la douce et joyeuse Sandra, aujourd'hui... Malheur, bien sûr, on t'oublie. Bon, excusez les traductions, c'est un peu littéral. C'était simplement pour vous donner ces petits exemples de poèmes qu'il dédie à cette jeune fille. Dès 1865, il est atteint d'une maladie dont il mourra et qui est la tuberculose. Et quand il se sépare de cet ami, puisqu'il va devoir quitter cette ville, la ville d'Oustisolsk, il lui écrit « Sandra, cœur de mon cœur, Ma maladie est grave, mes os se disloquent, mon crâne se fend. Sandra, cœur de mon cœur, je t'ai bien fatigué. Il t'est bien difficile maintenant de pouvoir m'aimer. Un petit poème à propos d'une brouille entre eux deux. L'année 1865, le 14e jour du mois d'août à la 3e heure, avec ma tendre et chère, nous nous sommes quelque peu querellés. Cette même année, en cet hiver, ce jour et cette heure, 2 minutes plus tard, nous nous sommes réconciliés. Vous voyez, c'est tout à fait innocent. Un poème qui s'intitule « Mich, la faute ». J'ai dans mon âme une lourde faute, une seule faute. Je n'ai pas dit un seul mot quand elle m'a dit « Je t'aime ». Un petit poème un peu ironique. « Tu es mon idéal, comme un bel ange aux belles joues, idéal. Tu ferais mieux, la nuit s'avance, dit-elle, de dormir. » Donc, il reçoit l'ordre de quitter Oust-Tsolsk. Alors, on dit, je ne sais pas d'ailleurs si c'est, quel est, dans quelle mesure c'est vrai, on dit qu'il était soupçonné d'avoir des, ça ne serait pas étonnant d'ailleurs, d'avoir des vues démocratiques, donc considéré plus ou moins comme un révolutionnaire. Il n'est pas exilé, il est simplement nommé à Kazan. Et en quittant Oust-Tsolsk, il écrit un poème en russe. Et alors c'est assez curieux parce que cette ville qui est sa ville natale, voilà ce qu'il en dit, ce qui prouve que s'il partait de Oust-Tsolsk, c'était tout de même pas de bon gré. Mais d'autre part, qu'il considérait que la vie en pays commis était une vie absolument impossible. Alors c'est un poème assez ambigu dont je vais vous lire quelques extraits. Oust-Tsolsk, ville vulgaire, ville de boue. Te voici envahi par une ignoble racaille d'imbéciles et de gredins. Dans tes maisons vieillottes pousse le champignon et le pas glisse sur tes ponts qui ne méritent pas ce nom. C'est Oust-Tsolsk, la vieillarde. Croupie dans ta boue et ta routine éternelle, ville de cancan et de calomnie, ville déserte, ville estropiée, ville objet de mépris. Alors, c'est évidemment un cri de colère, et alors on attribue ça à un certain nombre d'ennuis qu'il avait eu avec l'administration. D'ailleurs, il cite 2 ou 3 noms dans ce poème, qui d'ailleurs n'a pas été publié à cette époque-là, 2 ou 3 noms de personnages qui, semble-t-il, lui ont créé quelques ennuis. Alors, il y a tout de même, quelques mois plus tard, un mois plus tard, un autre poème qui s'appelle « Adieu », qui est un peu plus serein. « Naguère encore j'ai maudit ma ville natale, disant « Emportez-moi d'ici, démon, vers une mort inespérée. Mais nul besoin des diables, car j'ai reçu l'ordre de partir au plus vite. Pourquoi si vite ? J'avais pourtant à prendre congé de celui-ci, de celui-là, 10 autres aussitôt me viennent en tête, etc., etc. » Et à la fin, il dit « Mais toi, ma petite Zyrienne, » alors la petite Zyrienne, c'est évidemment son amie, « ne vais-je pas, terrassée par le chagrin, ne plus voir qu'en songe ton image ? C'est ainsi qu'a fini ma journée, ordre maudit. » Donc, très ambivalent, était-il content ou non de quitter ? Manifestement, c'était les choses qu'on partageait. C'est à ce moment qu'il écrit un de ses poèmes les plus célèbres, qu'il intitule « Ma muse », qui est un poème assez fier et très qui exprime bien sa pensée sur la poésie. « Ma muse n'est pas à vendre. Je ne tiens pas boutique de mes poèmes. Je ne tiens pas à attendre le chaland. Dans le secret, nous chantons à deux quelques petites fausses notes entre nous, mais qui leur donnera un nom. Entre nous, nous en rions, et nos cahiers nous donnent un feu plus clair que nous allumons dans la cheminée. Bientôt nous élevons un peu la voix, Que le poème fasse paraître les tartuffes, les vêtements trop larges et mal ajustés, le parasite qui s'engraisse du peuple et du sang rouge des hommes, et aussi les braves gens qui, aujourd'hui, gèlent et meurent de faim, et qui attendent tout leur bonheur de la mort. Ma muse ne sera pas à vendre. Alors, il est nommé à Kazan, et à Kazan, il se lance dans l'étude des langues finno-ougriennes, autres que le komi, et en particulier le mari. Et c'est là que, pour une fois, il va avoir la joie de voir publier 5 de ses poèmes, mais dans un journal de Vologda, un journal russe de Vologda. Il commence à ce moment-là une épopée qui ne sera jamais achevée et qui est intéressante parce que c'est l'épopée qui répond, si vous voulez, au Kalevipoek ou au Kalevala, et qui s'appelle Yagmort. Yagmort, qui est un personnage de la mythologie komi, un géant des forêts, et ça lui donne l'occasion de retracer toute l'histoire du pays komi, histoire imaginée depuis les invasions, et en même temps de faire une sorte de tableau de la situation de la terre komi, du pays komi, et de situation finalement assez misérable. Alors c'est un poème qui est à la fois extrêmement lyrique, qui est historique, qui est évidemment fait beaucoup appel à la mythologie, mais en même temps est un poème aussi social, puisque c'est une description de ces des misères, si vous voulez, de la vie en Russie. Je vous lis un passage. La Russie est un vaste pays, mais comme nulle part ailleurs. Mais il faudrait ici tracer de grandes voies. Craignez les routes de ce pays. Dans d'autres pays, on peut aller vite car les villes sont proches de l'autre. Ici, on se perd à côté de son chez-soi. Et alors, en particulier, il se plaint, il fait état du manque de moyens de circulation. Vous savez que la Russie commence à ce moment-là à se doter de chemins de fer. Et évidemment, ce n'est pas dans le pays komi qu'on installe les premières gares et les premières lignes. Il termine son école de préparation. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est dans une école de préparation d'administration militaire. Il termine son école et part pour un poste à Semipalatinsk. Alors, Semipalatinsk, c'est à la frontière est du Kazakhstan, qui ne s'appelait pas le Kazakhstan, c'était toute cette grande région qu'on appelait à l'époque plutôt le Turkestan russe, la partie orientale de la Russie. Alors le Semipalatinsk, c'est vraiment tout à l'est du Kazakhstan. Il continue à faire beaucoup de traductions, une trentaine de poèmes, et en 1869, il est nommé dans la capitale de ce grand pays qui s'appelle à l'époque Verny et qui deviendra Alma-Ata. Il est toujours dans les services de l'administration militaire et en particulier, il a une fonction de juge d'instruction, c'est-à-dire il s'occupe des affaires de corruption. Il fait des enquêtes sur la corruption, corruption des fonctionnaires en particulier, et sur les affaires d'exploitation de la population, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un abus, eh bien, il fait une enquête là-dessus. Il commence à s'intéresser, comme vous avez pu le constater, si vous voulez, il s'intéresse beaucoup aux différentes langues de ce pays. Il s'intéresse naturellement beaucoup à l'histoire des Kazakhs, des Kirghizes, des Tadjiks, et il apprend le Kirghize, il apprend le persan, et il fait des traductions, en particulier d'un grand poète de Samarcande, qui est Roudaki. Et il pense aussi à rédiger une grammaire, mais de cette grammaire, le manuscrit a disparu. Et il est célibataire toujours, et toutes ces économies, tout ce qu'il peut gagner, il l'envoie à Kebra, ou plutôt il l'envoie chez ses frères pour aider financièrement ses neveux. C'est à ce moment-là que sa maladie devient de plus en plus grave. Il écrit à ce moment-là « Je peux à peine dire la moitié d'un mot. La maladie écrase ma poitrine. Bientôt ce sera la terre. Il faudra bien la porter d'une façon ou d'une autre. » Il écrit également sous le nom de Gougoff « Je suis déjà promis à la tombe, elle va me saisir, je meurs. Il n'y a point de sauveur qui puisse prolonger ma vie. » Et le 29 octobre 1875, il meurt dans la maison de sa logeuse Nadiezhda Troukeyeva, après avoir écrit « Bientôt dans ce coin s'élèvera ma tombe. Les hommes ne l'ont pas entendu, il leur était inconnu, mais c'est un homme qui a vécu. Il a vécu en cachette il meurt. L'homme même n'existe pas, absolument personne pour le pleurer. » Autour de la tombe, Laos Deo, gloire à Dieu, ce sera le grand silence. L'expression ici, c'est une expression commis très, très pittoresque. Ni roue, ni teu, ni vapeur, ni vent. Ce sera le grand silence. Après cela, ce sera comme si ni homme, ni maison n'avaient jamais existé. Alors, ce qui est intéressant, c'est la destinée de l'œuvre de Kouratov après sa mort. Parce que, après sa mort, les gens, ses amis de Verny, envoient ses manuscrits à sa famille, à ses frères. Et alors, semble-t-il, ses frères ne s'y intéressent guère. Il y a une quantité de manuscrits, en particulier, qui sont perdus. Et c'est seulement un de ses neveux, Stiepan, le fils de son frère Athanase, qui va conserver la part de manuscrits qui était revenue à son père. Comment a-t-on connu Kouratov? C'est par la Finlande. Le premier finlandais qui s'occupe de Kouratov, c'est Urho Wichmann, qui, à Pétersbourg, rencontre un des amis de Kouratov, qui était Georg Lütkin, dont j'avais déjà parlé, et qui rencontre aussi quelqu'un dont on a parlé aussi ce matin, qui est Kalistrat Jakov. Et alors, Wichmann entend parler de Kouratov, il s'en va, début du XXe siècle, 1901, il s'en va à Ostisolt, il rencontre le neveu de Kouratov qui avait gardé ses manuscrits, et il reste 2 mois là, et il commence à s'intéresser donc à cette littérature, dont il parlera dans un livre qui sera publié presque aussitôt, Bref commentaire sur une expédition scientifique chez les commis. Alors, un peu plus tard, si vous voulez, le nom de Kouratov commence à être connu, et en particulier ce poème très célèbre qui est le poème Komikud, la langue komi, que vous avez entre les mains dans une traduction. Il y a une traduction finnoise, une traduction estonienne et une traduction française. Donc, on se met à traduire peu à peu les poèmes de Kouratov. Je m'arrête.
Jusqu'au bout quand même. Bon.
Et alors, il se trouve que le neveu de Kouratov, c'est un hasard, il se trouve que le neveu de Kouratov a une fille qui s'appelle Lyudmila et qui va épouser un linguiste, un spécialiste de la langue et de la poésie komi, et qui vont convaincre le neveu, donc le père de Lyudmila, qui vont convaincre le père de Lyudmila de publier toutes les œuvres qui sont encore entre leurs mains. Et en 1923, un autre Lytkin, qui n'a rien à voir avec le premier, Vassili Lytkin, va publier un article « Poète commis oublié ». Et on aura également un livre sur Kouratov, écrivain commis inconnu. Peu après, il se trouve que, on en a parlé également ce matin, c'est la période stalinienne, et que Vassili Lytkin, Stepan Kouratov et Sidorov, c'est-à-dire le mari de la fille de Stepan, sont arrêtés et les manuscrits sont confisqués et beaucoup disparaissent. D'ailleurs, beaucoup sont détruits. Même. Et en 1938, c'est encore un Finlandais qui va publier des traductions de Kouratov dans la Syriannische Krestomatie. Il est reconnu par l'État soviétique, Kouratov est reconnu par l'État soviétique comme un grand poète, et on va publier sous son nom donc deux volumes de ses œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui avait contribué à l'édition de ses œuvres, c'est-à-dire Sidorov, ne voit pas son nom du tout dans le volume. Hein, le volume, on avait interdit, si vous voulez, que le nom de ce personnage qui avait été arrêté et emprisonné paraisse dans ce volume. Et donc le 19 novembre 1940, il y a une soirée à Moscou pour le 100e anniversaire. Alors, si j'ai quelque temps, je peux lire un ou deux poèmes.
Je n'ai pas l'heure ici, Sébastien. Pardon. Ben peut-être que les poèmes, on les introduira oui. dans le texte écrit.
D'accord.
Comme ça, on pourra écouter Sébastien rapidement
oui.
avant
Très
que
bien.
Jean-Luc ne s'en Très aille.
Bien. Très bien.
Oui. Oui. Non, je pense que ça fera un très bon enchaînement parce que tout ceci était absolument indispensable pour qu'on comprenne ce que Sébastien va nous parler, ce dont Sébastien va nous parler. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on t'écoute, Sébastien, maintenant, et puis qu'après, on pose des questions aux deux intervenants en même temps. D'ailleurs, je vais quitter cet endroit pour que vous vous y mettiez tous les deux. Et vous restez ici, parce que ensuite, vous aurez à répondre à des questions. Donc,
Oui,
ok, il y en a aussi.